L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, le Ramadan qui a débuté cette semaine pour les musulmans du monde entier avec, vous le verrez, quelques spécificités selon les pays africains. Au Canada, un projet de loi sur la laïcité qui fait polémique. La France, accusée d'acheminer des armes à l'Arabie Saoudite, perçue comme une grande menace pour les civils du Yémen. Au programme également en Belgique, à deux semaine des législatives, les questions judiciaires qui agitent la campagne électorale. Enfin, en Suisse, on tentera de comprendre pourquoi le Parlement veut réduire la protection des loups. Voilà pour le programme de l'actualité francophone. Bienvenue à tous. La chrétienne Asia Bibi a finalement réussi à fuir le Pakistan. Sébastien Desrosiers, elle a trouvé refuge au Canada.
Elle avait été condamnée à mort, une histoire qui remonte à 2009. Elle avait offert de l'eau à des villageoises musulmanes qui avaient refusé de boire dans la même bouteille qu'une chrétienne. Une dispute a suivi. Asia Bibi a été accusée d'avoir insulté le prophète Mahomet. Alors son acquittement en octobre dernier avait provoqué des manifestations monstres au Pakistan. Elle craignait pour sa sécurité. Et Justin Trudeau a dit « Le Canada est un pays qui accueille ». Mercredi, finalement, son avocat a confirmé qu'Asia Bibi était à Ottawa, où vivent ses deux filles depuis quelques mois. C'est un grand jour, a-t-il dit.
En Suisse, les Genevois n'en croient pas leurs oreilles. Pierre Anchoffat, un fonctionnaire vient d'être arrêté pour suspicion de fraude électorale.
Oui, au pays de la démocratie directe, ça fait tâche. Cet homme de 33 ans a été dénoncé par des collègues. Selon leur témoignage, l'employé disposait des clés, des locaux où sont stockés les bulletins de vote par correspondance jusqu'à l'heure du dépouillement. Il aurait alors détruit certains bulletins pour les remplacer par d'autres, modifiés de sa main. La fraude présumée porte sur plusieurs centaines de voix et concerne au moins 4 scrutins cantonaux dont l'issue aurait pu être modifiée. Le prévenu nie les faits. Les élus sont, eux, consternés par cette nouvelle affaire peu reluisante qui frappe le canton de Genève.
Charlotte Hydrac pour RFI. La mort cette semaine du photographe malien Mamadou Koné, dit Super Koné.
Oui, il se voyait guitariste. Finalement, Super Koné a vu passer devant son objectif plus de 800 personnalités politiques, présidents, chefs de gouvernement, rois, princes du continent. Autodidacte, il commence avec les images des cérémonies officielles au Mali. Et puis le tournant, ce sera une rencontre avec Jacques Foccart, le puissant monsieur Afrique du général de Gaulle, qui lui ouvre les portes de l'Élysée. Après plus de 40 ans de carrière, il préparait un livre de près de 2300 photos et témoignages.
En Belgique, la chanteuse Morane était à l'honneur cette semaine. Il faut rappeler que ça fait un an qu'elle est décédée, Maxime Dumoulin.
Un décès accidentel, une lourde chute dans sa salle de bain. La veille de sa mort, la chanteuse s'était encore produite sur scène à Bruxelles lors d'un concert hommage à Jacques Brel. Morane habitait Schaerbeek, une commune de la capitale, Bruxelles. Une commune qui a décidé de lui rendre hommage ce mardi en donnant son nom à un parc. Ce parc, Morane le voyait tous les jours puisque sa maison avait vue dessus. À Schaerbeek, près d'une rue sur trois porte le nom d'un artiste.
En France, le coup de gueule du cinéaste Jean-Pierre Jeunet, 17 ans après le succès de son film Amélie Poulain, il dit ne pas vouloir faire de suite, une suite que l'on lui réclame pourtant souvent. Pas question, dit-il, car Paris est devenu trop moche, toujours en travaux. Paris est devenu trop cher, trop difficile à tourner pour le cinéma. Pas de grosses productions en vue, donc, pour Jean-Pierre Jeunet. Mais pourquoi pas, dit-il, un faux documentaire autour d'Amélie Poulain. Le Ramadan a donc commencé cette semaine pour les musulmans du monde entier avec des spécificités dans certains pays d'Afrique, Charlotte Hydrac.
Oui, en Mauritanie, en plus de s'abstenir de manger du lever au coucher du soleil, les hommes avaient coutume autrefois de se raser complètement la tête avant d'entrer dans le mois de jeûne. Et cette tradition du crâne rasé perdure chez certains jeunes, c'est un passage obligé.
Le prophète dit, ancien temps, ils ont fait ça au Ramadan. C'est la meilleure coiffure de l'année.
Du monde chez les coiffeurs pour hommes, donc en Mauritanie. Du monde aussi sur les marchés de Bangui, en Centrafrique, en vue des grands repas de fête pour la rupture du jeûne. Contrairement à l'an dernier, dans la capitale, la fête religieuse avait été ternie par des violences intercommunautaires entre chrétiens et musulmans. Alors cette fois-ci, le Ramadan pourrait être l'occasion d'une réconciliation, espère le président d'une organisation musulmane.
Ramadan, c'est un mois sacré, c'est un mois de pardon. ans. On attend vraiment le gouvernement, on attend impatiemment le chef de l'État pour qu'il profite de cette occasion enfin de venir vers la communauté musulmane, de réconcilier les Centrafricains, de se vivre ensemble comme auparavant.
Un ramadan très politique enfin en Algérie après la chute du président Abdelaziz Bouteflika. Certains craignent un essoufflement du mouvement de contestation contre ce qu'il reste du régime. Mais dans la diaspora en France, les débats prennent beaucoup de place lors des grands repas de famille.
On parle entre nous, on se rapproche beaucoup, voilà, on discute de tout ce qui se passe. C'est le moment pour réunir tout le monde.
Des débats qui s'invitent au milieu des mets traditionnels de la rupture du jeûne, chorba, date, thé à la menthe, gâteau au miel. Une chose en tout cas ne change pas d'un pays à l'autre, d'une année sur l'autre, pendant le ramadan, c'est l'augmentation des prix des denrées alimentaires.
Au Canada, Sébastien Desrosiers, un projet de loi sur la laïcité du gouvernement du Québec suscite de vifs débats.
Oui, le projet prévoit l'interdiction du port de signes religieux pour tous les employés de l'État en position d'autorité, donc les juges, les policiers par exemple, mais aussi les enseignantes. En fait, le projet a été déposé il y a un mois, là on est à l'étape des consultations publiques, et cette question des enseignantes, elle revient constamment. Ceux en faveur disent une enseignante qui porte le hijab, par exemple, exerce une certaine influence sur les jeunes, une sorte de prosélytisme. Et ceux qui sont contre répondent, bien, où sont les preuves? Vous allez entendre Jemila Benhabib du collectif Citoyens pour l'égalité et la laïcité, puis le sociologue Gérard Bouchard qui craint, lui, pour la réputation du Québec.
Les femmes qui ont une vision absolutiste de la religion, c'est-à-dire qui n'acceptent pas d'enlever leur voile pendant leurs heures de travail, celles-ci, ce sont des
On a l'air des gens qui ne sont pas très sensibles aux droits fondamentaux. Et on a l'air d'une société qui n'est pas très démocratique, parce qu'on recourt à des instruments comme les clauses dérogatoires pour se soustraire à l'examen des tribunaux. On n'a pas l'air d'une société que j'appelle décente.
Oui, Sébastien, c'est finalement un débat qui ne date pas d'hier, hein?
Depuis 15 ans, 4 projets de loi, une commission publique sur ce qu'on appelle les accommodements raisonnables et un projet de charte des valeurs québécoises n'ont pas réussi à régler la question. Le gouvernement actuel espère clore le débat d'ici le mois prochain.
En France, l'opposition reproche au gouvernement de livrer des armes à l'Arabie Saoudite, elle-même engagée dans une guerre au Yémen. Or, cette guerre au Yémen menace des centaines de milliers de civils. Et l'opposition française accuse donc la France de contribuer à cette répression des civils. La France livre notamment des canons à l'Arabie Saoudite et plusieurs associations françaises et autres ONG ont tenté d'empêcher une dernière livraison à partir d'un port français. Il faut que la France suspende ses livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite, c'est ce que martèle, par exemple, le député communiste Jean-Paul Lecoq au téléphone de Sixtine Lys.
Le secrétaire général de l'ONU dit que c'est le pire crime humanitaire qui existe depuis des décennies au monde. Bon, faut ouvrir les yeux. Et on essaye à l'Assemblée nationale d'ouvrir les yeux du gouvernement, mais business a l'air de primer sur humanité et sur le respect des traités internationaux.
La ministre a répondu que ce chargement répondait à un accord commercial qui date de plusieurs années.
Bah oui, mais on s'en fout. Si c'est pour tirer sur des populations civiles, là, ça doit être suspendu. On suspend les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite pour favoriser et accompagner la demande de l'ONU qui est d'engager un processus de paix qui a urgence à arrêter les hostilités.
Voilà, demande de suspension des ventes d'armes, sauf que le président français Emmanuel Macron répond qu'il assume ses livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite et concernant la dernière livraison d'armes déjà à bord d'un cargo saoudien au départ de la France, Emmanuel Macron dit avoir la garantie que ces armes ne seront pas utilisées contre les civils au Yémen. En Belgique, à 2 semaines des élections législatives, la mort d'une jeune fille a remis la justice au centre de la campagne électorale, Maxime Dumoulin.
Oui, l'histoire d'une jeune fille partie à vélo pour rejoindre des amis et qui n'arrivera jamais. Sur sa route, elle croise en effet le chemin d'un homme condamné pour viol en 2004 et à nouveau en 2017. On retrouvera le corps de la jeune fille en début de semaine dans un canal à Anvers.
Et cet homme n'était pas en prison?
Non, et pour cause, il avait fait appel de la décision de 2017 et devait être entendu en juin prochain, 2 ans plus tard. Comment est-ce possible? C'est la question posée comme un cri par l'opinion publique. La politique prend alors le relais, le débat se concentre sur l'attitude de la justice. Une justice qui doit fermer des chambres dans des tribunaux, qui n'a plus assez de personnel, qui n'a pas de matériel. Maxime Prévost, président du CDH et membre de l'opposition, dénonce le gouvernement fédéral qui n'assume pas ses coupes budgétaires.
Ce qui m'indigne dans l'épisode qu'on a vécu ces dernières heures, c'est qu'au lieu d'avoir des responsables politiques du gouvernement fédéral qui assument les conséquences aussi des coupes-sons budgétaires qu'ils ont imposées de manière linéaire et aveugle à plusieurs départements, dont celui de la justice, on en arrive à entendre une culpabilisation des magistrats en disant que finalement, si ça s'est produit, c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment.
Pourtant, ce sous-financement est discuté. Un professeur de finances publiques, Herman Matthijs, explique que la justice n'est pas si maltraitée. Il ajoute que notre pays n'investirait pas moins que les autres pays de l'Union.
En Suisse, les loups ont intérêt à bien se tenir. Le Parlement veut en effet réduire la protection dont ce prédateur bénéficie aujourd'hui, Pierre Anchoffard.
Oui, s'il y a bien un sujet qui anime les passions au Palais fédéral, c'est celui-là. La protection du loup revient régulièrement à l'agenda parlementaire. Et on peut dire que le travail de sape finit par payer. Dans le cadre de la révision de la loi sur la chasse, la Chambre du peuple a en effet donné plus de marge aux cantons pour autoriser de tirer ce prédateur à titre préventif.
Pierre-En, le loup est-il si menaçant en Suisse ?
Bien, cela fait maintenant un quart de siècle qu'il est réapparu dans l'espace alpin et les amoureux de la nature sauvage ont observé avec émotion une première meute il y a 7 ans. Moins d'enthousiasme chez les chasseurs et les éleveurs dont les moutons sont parfois dévorés, il faut bien le dire. Le démocrate chrétien valaisan Benjamin Reduit veut donc réguler ces prédateurs.
La chasse, c'est certainement le meilleur moyen de protéger notre environnement, d'avoir un entretien des pâturages parce qu'il y a encore des éleveurs qui osent élever leurs moutons et donc entretenir le paysage. Le grand prédateur ne se pose pas du tout ces questions-là.
Et pour Hessen Dayer du VVF, ces parlementaires à la gâchette facile ne se sont justement pas posé beaucoup de questions sur les possibilités pour protéger les troupeaux.
On est en train de perdre 1 million d'espèces et on décide d'abattre plus facilement les espèces protégées. Je vous rappelle que quand même les animaux d'élevage, c'est pas des espèces protégées. Ça veut pas dire qu'il faut pas les protéger contre les prédateurs, mais il y a une certaine mesure à conserver.
Des organisations de protection de la nature qui annoncent déjà un référendum pour permettre au peuple de trancher.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.